so reconnaît que de l'axe Gorgadi-Arbinda, c'est un axe qui est un axe qu'on appelle le couloir de la mort, qui est un axe qui emprise des groupes armés terroristes. Donc les populations sont obligées chaque fois de se faire escorter par l'armée pour pouvoir atteindre Arbinda ou de revenir vers Gorgadi le jour du marché. Donc ils avaient l'information que le combat avait démarré, donc ils ont tendu l'embuscade. Et si on observe bien ces derniers temps, ils sont montés en puissance quant à la réussite des embuscades contre le sud, c'est-à-dire contre les forces du parti de sécurité. Et ce qui prouve qu'ils ont gagné en technicité et puis en véhicules nécessaires pour mener de telles actions.
Les attaques sont récurrentes dans cette région, mais pourquoi jusque-là on n'arrive pas à trouver une stratégie quand même pour ne serait-ce que diminuer l'ampleur?
Effectivement, je ne saurais vous le dire parce que nous nous trouvons face à des forces de défense de sécurité diminuées qui n'ont pas les moyens de riposte nécessaires. Et donc, c'est cette situation qui fait qu'effectivement, lorsqu'ils se retrouvent face à une embuscade, ils n'arrivent pas à riposter et surtout que probablement les moyens aériens aussi font défaut. Et donc, qui complique encore l'attaque, parce que généralement, lorsqu'une attaque d'une telle ampleur est menée, avec l'appui aérien, généralement, on arrive à réduire l'attaque avec les choses en force des airs. Mais c'est vraiment incompréhensible qu'après 6 années, on n'arrive pas à tenir tête face à ce groupe armé terroriste.
Cette fois-ci, on parle de 47 morts au Burkina. Bien avant, il y a quelques jours, on parlait de 50 morts au Mali. Et bien avant cela, 37 morts au Niger. Qu'est-ce qui se passe dans cette région?
Oui, c'est la preuve que le groupe armé terroriste sont en train de monter à l'offensive. En principe, à cette période de l'année, c'est-à-dire pendant la saison de pluie, les attaques sont à la baisse. C'est vraiment la première fois depuis le début des attaques que les incendies vivants, des attaques et une intensité de la violence. Et cela veut dire qu'ils ont beaucoup plus d'assurance, ils maîtrisent beaucoup plus les zones et ils ont beaucoup plus de moyens logistiques adaptés désormais à ces zones qui sont des zones isolées, inondables, dues à la saison de pluie. Donc il faut encore en tout cas s'inquiéter sur cette montée en puissance de ces groupes armés terroristes.
Jusqu'à un passé récent, c'était les militaires, les forces de l'ordre en général qui étaient pris pour cible. Cette fois-ci, ils ne font plus de distinction entre civils et militaires. Qu'est-ce qui explique cela?
Tout simplement, ils s'adaptent à la réponse apportée par les différents États dans cette lutte. En impliquant les civils dans cette lutte, désormais, effectivement, c'est difficile d'épargner les civils puisqu'on a aux côtés des forces de défense et de sécurité désormais des civils qui sont en armes. Donc, ce qui fait qu'ils considèrent désormais les civils comme des complices et comme des troupes combattantes. Donc, à ce titre, ils sont traités de la même manière que les forces de défense et de sécurité.
On a vu ce qui s'est passé à Kaboul avec la prise du pouvoir par les talibans. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon avec ce qui se passe dans cette région du Liptako?
Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'on ne peut en premier lieu que compter sur les propres forces, donner l'équipement nécessaire à nos forces de défense et de sécurité, les armer de façon conséquente. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que le tout sécuritaire ne résout pas de façon pérenne la solution. Donc ces deux leçons doivent nous permettre effectivement de nous recadrer et aussi de rebondir pour ne pas subir les mêmes erreurs que l'Afghanistan.